Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur l'assassinat du préfet Claude Érignac. Le 6 février 1998, le préfet de Corse est assassiné dans les rues d'Ajaccio. Une transgression absolue. C'est le premier préfet assassiné en France, le premier haut représentant de l'État depuis la Libération. Derrière cette exécution, c'est la République en attaque. L'émotion dans toute la France est à la mesure du symbole. S'ouvre alors l'une des plus grandes affaires politico-judiciaires de ces dernières décennies, l'une des plus complexes également. L'affaire Érignac nous plonge en effet au cœur du contexte corse, à un moment charnière de la lutte des mouvements nationalistes. Cet attentat, perpétré contre le plus haut représentant de l'État français sur le territoire insulaire, est le point d'orgue, l'acte le plus grave de la lutte de libération nationale que mènent les militants indépendantistes depuis 30 ans. L'enquête qui suit l'assassinat du préfet se déroule sur plusieurs mois. De l'arrestation des membres du commando jusqu'à leur procès, en passant par l'incroyable cavale du principal suspect, Yvan Colonna, assassiné dans sa prison d'Arles et mort 3 semaines plus tard, le 21 mars dernier. Pourquoi ? L'homme qui en savait trop ? Peut-être. L'idée fait son chemin. En tout cas, le malaise est profond en Corse depuis cet événement. Notre invité aujourd'hui, Paul Ortoli, journaliste à France Bleu, RCFM, Radio Corse et Fréquence Amora, correspondant en Corse du quotidien Le Monde. Il est aussi l'auteur et réalisateur d'un documentaire de 52 minutes sur une dynastie politique héréditaire intitulée Rocca Serra, l'héritage du pouvoir, bientôt diffusé sur France 3 Corse. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Simon Maisonneuve, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Ajaccio, Corse du Sud, le 6 février 1998. Il est 9h moins 10, vendredi soir, quand le préfet Claude Érignac, en compagnie de sa femme, Dominique, quitte le palais de l'Antivy qui abrite la préfecture. Le couple va assister à un concert de musique classique au théâtre Calisté, situé à quelques kilomètres de là. Ce haut fonctionnaire, en poste depuis 2 ans, est réputé pour ses habitudes de simplicité. On le voit souvent à vélo dans la ville ou le dimanche sur la place du marché. Il n'a pas de chauffeur ou de protection rapprochée, non. Non, non, il conduit lui-même sa voiture, ce soir-là. À la recherche d'une place pour se garer, il laisse sa femme descendre devant le théâtre et se dirige vers le cours Napoléon, perpendiculaire à l'avenue Jean Colonna d'Ornano, où se trouve le théâtre. Claude Érignac trouve une place et remonte ensuite l'avenue à pied. À 21h06, des coups de feu retentissent. Claude Érignac s'écroule. Une première balle l'atteint dans la nuque. Le tireur est dans son dos. Il s'avance et devant le préfet à terre, l'achève de 2 balles dans la tête. Des témoins assistent à la scène. Le tireur, d'un calme absolu, toise l'un d'eux pendant plusieurs secondes. Accompagné d'un autre homme, il prend le temps de sortir le chargeur de son pistolet et dépose son arme à côté du corps du préfet avant de prendre la fuite. Il faut à peine quelques minutes pour que la nouvelle de l'assassinat de Claude Érignac se propage. L'agitation gagne peu à peu la salle du théâtre, puis le voisinage et bientôt l'île tout entière. Les programmes télévisés s'interrompent pour relayer l'information.
Bonsoir à tous. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce soir à Ajaccio par 2 inconnus.
On peut pas faire une Corse avec des gens qui tuent, c'est pas possible.
Claude Érignac, 60 ans, originaire de Mende, en Lozère, avait fait toute sa carrière dans les cabinets ministériels et le corps préfectoral, nommé par le gouvernement Juppé il y a 2 ans. Au moment où il a été tué, Claude Érignac, sans protection particulière, s'apprêtait à rejoindre son épouse dans un théâtre en ville afin d'y assister à un concert de musique classique.
Mais c'est très grave pour la Corse, madame, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire.
S'il vous plaît, je vous demande de faire silence.
Oui, monsieur le président. Nous venons d'apprendre l'assassinat en pleine rue du préfet de Corse, monsieur Claude Érignac. Pour dire notre indignation, je crois, unanime face à cet acte odieux, je vous demande de bien vouloir interrompre nos travaux quelques instants et de bien vouloir avoir, tous ensemble, quelques instants de recueillement.
Il n'y a pas de mots. C'est lâche. C'est immonde, c'est tout ce qu'on veut, et pour le préfet, et pour tout ce qui se passe en Corse.
Inévitablement, c'est la stupeur et l'effroi qui dominent à l'annonce de l'assassinat du préfet Claude Érignac. L'émotion est unanime. Sur l'île, comme en métropole, les drapeaux sont en berne parce que le contraste est fort entre la violence de l'acte et la réputation de la victime, connue pour être ferme, certes, mais juste et profondément attachée à l'idée de la République. Âgé de 60 ans, ce haut fonctionnaire à la carrière exemplaire était proche de la retraite. Depuis 30 ans, la Corse est le théâtre d'une lutte sans fin menée par les militants indépendantistes contre l'État français qu'ils considèrent comme État colonial. Au nom du FLNC, le Front de Libération Nationale Corse, créé en 1976, de nombreux attentats sont commis au cours de ce qu'on appelle les nuits bleues contre des bâtiments publics ou des représentants de l'État. L'organisation, considérée comme terroriste par les autorités nationales, est basée sur la clandestinité et se dit financée par ce qu'elle appelle l'impôt révolutionnaire, du racket en fait. Face à cette situation, les gouvernements successifs alternent discours de fermeté et périodes de négociation. De ce côté, le mouvement nationaliste connaît de nombreuses crises, notamment au milieu des années 90, avec la scission entre le FLNC Canal Historique et le FLNC Canal Habituel. Au cœur de cette rupture, il y a une opposition sur l'attitude à adopter vis-à-vis de l'État. Les règlements de compte internes se multiplient, la rupture s'amplifie au sein du mouvement et pousse à la radicalisation d'une partie de ses membres. C'est dans ce contexte troublé que survient l'assassinat du préfet Erignac. La classe politique prend les devants. Le Premier ministre, Lionel Jospin, dénonce un acte abject et inqualifiable. Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur, parle de cause sacrée, se rend immédiatement à Ajaccio pour superviser l'enquête. Enfin, Jacques Chirac, le président de la République, prend la parole dès le lendemain. Dans cette froide journée d'hiver du 7 février 1998, les traits tirés, vêtus d'un manteau et d'une écharpe noire, Jacques Chirac s'avance sur le perron d'Élysée.
L'assassinat du représentant de l'État en Corse est un acte barbare, d'une extrême gravité et sans précédent dans notre histoire. J'ai exprimé personnellement à Madame Erignac et à ses enfants, au nom de tous les Français, mon émotion et mes condoléances. Claude Erignac était un grand serviteur de l'État, qui mettait toute son énergie, tout son cœur, au service de sa mission en Corse. Je souhaite que toute la lumière soit faite le plus rapidement possible par les services chargés de l'enquête et que la justice puisse punir les responsables de ce crime odieux.
L'enquête démarre sur les chapeaux de roue. Des moyens importants sont mis à disposition des autorités. Sur place, la police judiciaire d'Ajaccio est en charge des premières opérations. Elle est rapidement rejointe par la division nationale antiterroriste menée par Roger Marion. D'emblée, la tension est prégnante entre les deux entités. Roger Marion est pour le moins surpris de constater que la rue où a eu lieu l'assassinat du préfet est rendue à la circulation dès le lendemain du drame. Les téléspectateurs assistent alors, médusés, à l'interview d'un passant qui découvre en direct, face à la caméra, une douille de l'arme utilisée. L'arme du crime, justement, c'est le seul élément matériel qu'ont les enquêteurs. Aucune empreinte. Les témoins parlent de deux ou trois hommes de taille moyenne, de type méditerranéen, un brun et un blond. Certains évoquent, sans être sûrs, le port d'une perruque. C'est donc l'arme du crime qui concentre toute l'attention. D'ailleurs, la façon dont le tireur l'a laissée sur les lieux ressemble à une signature. Hypothèse rapidement confirmée, le numéro de série du Beretta 9 mm renvoie à une arme volée au cours de l'attaque d'une gendarmerie à Pietrosella qui a eu lieu le 6 septembre 1997, quelques mois avant l'assassinat du préfet. Le 9 février 1998, trois jours après l'assassinat de Claude Erignac, un texte de revendication parvient aux enquêteurs. Il est signé par un groupe baptisé « Les Anonymes ». Il mentionne le numéro de série de l'arme du crime qui confirme les liens entre l'assassinat du préfet et une série d'actions antérieures. Celle de la gendarmerie donc, mais aussi des attentats contre l'ENA à Strasbourg et des établissements thermaux à Vichy. Dans le texte, ces assassins accusent Claude Erignac d'avoir incarné l'action d'un État colonial sourd aux revendications nationalistes. De son côté, pour réaffirmer sa reprise en main, le gouvernement nomme un nouveau préfet, Bernard Bonnet. Quelques jours seulement après la mort de Claude Erignac.
Les plus hautes autorités de l'État se sont exprimées avec beaucoup de force en insistant sur le fait que dans cette île, les lois de la République doivent être appliquées sans défaillance et s'appliquer à tout le monde. Car ce qui me frappe dans cette île en reprenant contact, c'est ce besoin de justice ressenti par la population qui souhaiterait que l'autorité de l'État s'exerce de manière égale pour tous, et également ce besoin de paix.
Bernard Bonnet est précédé d'une réputation d'homme ferme et efficace. Une image que veulent renvoyer les autorités. D'ailleurs, une vague de répression s'abat sur la Corse. Des centaines de personnes sont arrêtées dans le rang des nationalistes. En plus des textes de revendication, le nouveau préfet s'appuie sur deux autres communiqués diffusés par un mystérieux groupe Sampiero quelques mois avant l'assassinat du préfet. Dans l'un d'eux sont évoquées des menaces justement contre les hauts représentants de l'État en Corse. Ce qui ressort surtout de ces deux communiqués, c'est qu'ils mettent en cause, à mots à peine couverts, un certain Marcel Lorenzoni. Cet agriculteur, ancien militaire, militant nationaliste bien connu des renseignements généraux, est le leader du mouvement de contestation contre l'endettement agricole des paysans corses. Il s'agit du dossier le plus sensible sur lequel travaillait Claude Erignac avant son exécution. Pour les enquêteurs, Marcel Lorenzoni est donc le principal suspect dans ce qu'on appelle la piste agricole. D'autant qu'on retrouve chez lui des armes et des explosifs. Il est rapidement mis en examen et incarcéré, mais il nie tout en bloc. Le temps passe, les enquêteurs approfondissent une piste agricole qui s'enlise à mesure que les mois filent. En décembre 1998, 10 mois après l'assassinat du préfet Erignac, plus de 300 personnes ont été entendues, des dizaines mises en examen, mais sans aucun résultat probant. Le dossier est au point mort. Et c'est une toute autre affaire qui lui donne un coup d'accélérateur.
Au lendemain de l'assassinat du préfet Erignac en Corse, il y a plus d'un an, le gouvernement français avait choisi Bernard Bonnet pour rétablir l'état de droit dans l'île. Et le nouveau préfet avait lui-même choisi la gendarmerie pour conduire son opération main propre. La gendarmerie parce que c'était l'armée, la République, l'obéissance, la discipline. Or voilà qu'on apprend aujourd'hui que 3 gendarmes auraient eux-mêmes organisé un attentat et incendié un restaurant de plage d'Ajaccio en tentant de faire porter le chapeau aux nationalistes. Et voilà donc que tout l'édifice s'effondre. Les gendarmes, le préfet, l'État, la République. Si l'un ment, les autres peuvent mentir aussi. Le doute est là, désormais.
En avril 1999, alors que le dossier du préfet Erignac patine depuis plus d'un an, Bernard Bonnet et son successeur font la une de l'actualité. Quelques jours auparavant, dans la nuit du 19 avril, un incendie criminel a ravagé la paillote chez Francis, une opération de barbouze lamentable. Après une enquête rapide, 5 gendarmes sont arrêtés. Et ils reconnaissent l'incendie volontaire de la paillote et expliquent que l'action a été ordonnée par le préfet Bernard Bonnet, qui est à son tour incarcéré. Un préfet assassiné, son successeur en prison pourrait presque en sourire si l'affaire n'était pas si dramatique. Le 18 mai 1999, la femme de Bernard Bonnet, sur demande de son mari, donne une interview à La Voix du Nord, dans laquelle elle déclare que son époux a notifié depuis plusieurs mois les noms des hommes qui ont participé à l'assassinat du préfet. C'est ainsi que l'affaire des paillotes relance le dossier Erignac. Pourquoi cette menace, qui ressemble fortement à du chantage, est-elle lancée par Bonnet depuis sa cellule? Pour comprendre la situation, il faut revenir quelques mois en arrière. Dès son arrivée en poste, Bernard Bonnet, alors qu'il n'en a ni les prérogatives, ni les compétences, décide de mener sa propre enquête, avec l'appui des gendarmes du groupe de peloton de sécurité. Il commence à voir, à plusieurs reprises, un informateur secret, qu'il surnomme Corté. Or, ce Corté se révèle rapidement bavard et plutôt bien informé. Il donne les noms de plusieurs membres du groupe qui auraient organisé l'assassinat de Claude Erignac. Problème. Bernard Bonnet se garde bien de prévenir Roger Marion à la DNAT ainsi que les juges d'instruction en charge du dossier. Non, c'est à Matignon qu'il adresse ses notes. Situation chaotique où plusieurs enquêtes sont menées parallèlement, avec des services de police et de gendarmerie en concurrence et un préfet qui outrepasse largement ses fonctions. La situation vire à la crise politique. Les députés de l'opposition déposent une motion de censure contre le gouvernement Jospin. Les autorités se doivent de réagir. Le 21 mai 1999, l'information tombe.
En Corse, les policiers ont ratissé large ces dernières heures. Hier et aujourd'hui, ils ont interpellé ou interrogé une douzaine de personnes proches du militant nationaliste Alain Ferrandi, lui-même arrêté. Six personnes ont été transférées à Paris et les compagnes de trois d'entre eux sont toujours gardées à vue à Ajaccio. Michel Colaccioni, vous êtes en direct avec nous de Corse. Les policiers pensent tenir le groupe opérationnel de l'assassinat du préfet Erignac et comme ils ne disposent pas de preuves tangibles mais simplement d'indices, ils veulent manifestement faire pression sur l'entourage des suspects.
Effectivement, faute de preuves, faute de charges formelles, qui manquent toujours depuis 15 mois quand même, les enquêteurs travaillent avec des présomptions lourdes. Vous disiez, pas de preuves, mais des présomptions suffisantes pour que le juge Bruguière poursuivre l'action psychologique tout en parvenant, il faut le signaler, à calmer le feu de la paillotte qui avait embrasé le monde médiatique ces derniers jours.
Dans la nuit du 21 au 22 mai 1999, 15 mois après l'assassinat du préfet, la DNAT interpelle quatre militants nationalistes. Alain Ferrandi, Pierre Alessandri, Marcel Istria et Didier Maranelli. Ainsi que les compagnes de trois d'entre eux. Cette fois, les enquêteurs sont presque sûrs d'avoir mis la main sur les hommes du commando Erignac. Les quatre hommes sont immédiatement transférés à Paris pour être interrogés. Depuis le mois de janvier 1999, les policiers ont accès à l'ensemble des échanges téléphoniques passés dans le périmètre de l'assassinat du préfet. À l'aide d'un nouveau logiciel, ils recoupent, trient, analysent les 3600 appels émis au moment du crime. Ils arrivent à en isoler 8, intéressants, passés entre 20h16 et 20h57, entre le secteur de la préfecture et celui du théâtre. Le premier correspond à un téléphone portable de l'hôtel Grand Bleu à Cargès. Le second à une compagnie de location de voitures. Les caractéristiques des échanges répétés et courts pourraient correspondre à l'organisation de l'attentat. Les enquêteurs identifient rapidement les utilisateurs potentiels de ces téléphones, Didier Maranelli, comptable à l'hôtel, et Alain Ferrandi, propriétaire de l'entreprise de location de voitures. Les deux hommes sont des nationalistes connus des services, comme on dit. Les enquêteurs le savent, tout se jouera pendant la garde à vue. Les quatre suspects commencent par nier. Ils ont tous un alibi que leur femme confirme. Mais au bout de quelques heures, l'épouse de Didier Maranelli craque. Puis, c'est au tour de Didier Maranelli lui-même de vaciller dans la nuit suivante. Il reconnaît avoir participé à l'assassinat du préfet le soir du 7 février 1999. Il explique que le groupe des anonymes est composé de 7 hommes, dont 6 étaient présents le soir de l'attentat. Il détaille toute l'organisation du commando, le rôle de chacun, sans mentionner le nom de ses acolytes qu'il remplace par des X. Mais après plusieurs heures d'interrogatoire, il se décide à donner les identités. Pour les plus importantes, X2, le tireur, et X3, celui qui le secondait en cas de défaillance ou d'imprévu. Il s'agit respectivement d'Ivan Colonna et de Pierre Alessandri. Ce même Alessandri confirme à son tour sa présence et son rôle. Enfin, Alain Ferrandi passe lui aussi à table. C'est lui le chef des anonymes et du commando. Sa femme indique l'avoir vu rentrer à la maison ce soir-là en compagnie de Pierre Alessandri et d'Ivan Colonna. Seul Marcel Istria nie toute participation. Pour les enquêteurs, c'est suffisant. Ses aveux circonstanciés corroborent les preuves téléphoniques. Il ne reste plus qu'à arrêter les trois protagonistes restants, Martin Ottaviani, Joseph Versini et le tueur présumé, Ivan Colonna. Oui, sauf que le 22 mai 1999, le journal Le Monde publie un article dans lequel il révèle que les auteurs de l'assassinat d'Erignac ont été arrêtés. Et le même jour, Ivan Colonna, en Corse, organise une conférence de presse sur TF1.
Moi, je ne peux pas empêcher la police de faire son enquête. C'est pas mon rôle. Hein. Moi, personnellement, j'ai quitté le mouvement national. Je suis toujours nationaliste. J'ai quitté le mouvement nationaliste depuis 95, depuis fin 95. Et je ne milite plus, on m'accuse de faits, moi je dis qu'une chose, prouvez-le. Moi je suis serein par rapport à ces accusations. Alors peut-être qu'on a le profil des gens qui sont responsables de cette action, mais on n'y est pour rien, donc je ne vois pas pourquoi et cet acharnement. Maintenant, ça devient grave parce qu'on s'attend à tout. On s'attend à tout. Quand on présente des gens comme des assassins ou comme un peu des extrémistes, des radicaux à grand renfort de publicité, quand les noms sont jetés en pâture, et on peut s'attendre à beaucoup de dérives.
Le lendemain, le 23 mai 1999, les policiers interpellent Martin Ottaviani et Joseph Versini. Yvan Colonna, lui, est introuvable. La veille, il a pris le maquis. Nouvel échec dans l'enquête Erignac. La traque d'Yvan Colonna, elle, commence.
Retrouvez-moi au bord du lac, à la nuit tombée. Fuyez le palais par le parc, il faut y aller. N'emportez que le nécessaire, l'or et les bijoux. Abandonnez nos affaires, oubliez tout. Laissez sonner le téléphone, ne décrochez pas. Ne parlez surtout à personne d'autre que moi. J'ai déconné.
Le 5 mai 1999, Jean-Hugues Colonna, le père d'Yvan, ancien député socialiste, lance un appel à son fils.
Bien, je vais m'adresser directement à lui pour dire, Yvan, je veux te dire et te répéter que je t'aime et que c'est pour cela, pour ton fils, pour toi-même, pour ta défense avec nous, que je te recommande de te mettre à la disposition de la justice.
Pendant que la traque du principal suspect s'organise, les enquêteurs renouent les fils de plusieurs mois d'enquête. Au cours de leur garde à vue, les membres du commando Erignac expliquent leurs gestes et livrent de nombreuses informations. Ils reviennent d'abord sur la genèse du groupe des Anonymes. Âgés d'une quarantaine d'années, ces militants nationalistes de longue date, situés dans la région de Cargès-Hexagone, connus de la plupart des renseignements de police, se sont réunis autour d'une déception commune, oui, celle de voir la cause nationaliste originelle se perdre dans les méandres des luttes fratricides, de l'affairisme avec le milieu corse, ou encore des compromissions avec Paris. Pour relancer le mouvement, ils décident une série d'actions à l'encontre de l'État, à Strasbourg, contre l'ENA, à Vichy et contre la gendarmerie de Pietrosella. Face à l'absence de réaction des autorités, ils décident alors de passer à un niveau supérieur, l'assassinat du préfet de Corse. Par ailleurs, les membres du commando reconnaissent l'existence d'une deuxième cellule, appelée cellule du Nord, située à Bastia. Ce groupe, les intellectuels, comme l'appellent les enquêteurs, se compose de deux professeurs, en fait. Oui, deux. Jean Castella, 43 ans, enseignant en histoire géo, et Vincent Andriuzzi, professeur de mathématiques. Selon le groupe de Cargèse, ces deux hommes s'occupaient des attentats sur le continent. Face à ces pièces du puzzle qui s'assemblent, il manque pourtant un élément central. Et pour cause, il est en cavale. Depuis ce jour de fin mai 1999, on est sans nouvelles d'Ivan Colonna. Les mois passent, puis les années. Son portrait est placardé sur tous les murs. Il devient familier, s'inscrit dans la mémoire des Français. Un visage qui s'impose, celui de l'ennemi public numéro un. Dans l'opinion, le statut de présumé innocent résiste mal à cette fuite. Les enquêteurs en ont la certitude. Ivan Colonna est toujours en Corse, où il bénéficie d'un réseau de soutien efficace et discret. D'ailleurs, il n'est pas rare de croiser sur les murs corses des inscriptions genre « Gloire à toi, Ivan ». Le mythe Colonna est en marche. Le 19 décembre 2000, après plus d'un an de cavale, le fugitif rompt le silence.
L'Est républicain rapporte qu'Ivan Colonna vient d'adresser une lettre manuscrite à l'hebdomadaire nationaliste Uribombo. Une lettre écrite en langue corse que son frère Stéphane a authentifiée avant d'en révéler le contenu au quotidien L'Est républicain et dans laquelle Ivan Colonna affirme ne pas avoir participé à l'assassinat du préfet. « Je ne comprends pas, écrit-il, pourquoi deux membres du commando m'ont désigné comme le tireur. C'est à eux de dire pourquoi ils m'ont accusé et c'est à eux aujourd'hui de rectifier leur déclaration. » Poursuit-il dans cette lettre. Marius Moraccioli, France Bleu, Radio Corse Frequenza Amour pour France Inter.
Le 2 juin 2003, le procès du commando s'ouvre devant la cour d'assises de Paris. Ils reconnaissent tous, comme ils l'ont fait en garde à vue, leur participation à l'assassinat. Tous, sauf Marcel Istria, qui lui n'avait rien dit au cours de son interrogatoire. En revanche, tous les membres du commando reviennent sur leur déposition et sur un point, la dénonciation de Colonna comme tireur. Et ils se rétractent. Ivan Colonna n'était pas présent ce soir-là. Quant à la stratégie de la défense, oh, elle est simple. Plaider l'acte politique. Colonna étant absent, il a été décidé de séparer son cas des autres. Cependant, l'ombre du principal suspect plane au-dessus des débats. Impossible de s'en défaire, on y revient toujours et encore. Et alors que le procès approche de la fin, le 4 juillet 2003, à plusieurs centaines de kilomètres de Paris, dans un meeting à Carpentras, le nouveau ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, interrompt le discours et prend la parole.
La police française vient d'arrêter Ivan Colonna, l'assassin du préfet. Je pense à cet instant à une personne, à Madame Erignac, qui a tant souffert, à son fils et à sa fille. Et cette arrestation, je veux la leur dédier.
Après 4 ans, 1 mois et 11 jours de cavale, Ivan Colonna est arrêté. Mais la phrase précipitée de Nicolas Sarkozy ne manque pas de faire réagir. En effet, vous l'avez entendu, il dit l'assassin de Claude Erignac, s'asseyant tranquillement sur un principe que manifestement il a oublié et qui s'appelle la présomption d'innocence. Malgré une interruption, le procès du commando va finalement jusqu'au bout. Le 11 juillet 2003, Alain Ferrandi et Pierre Alessandri sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Didier Maranelli à 25 ans, Martin Ottaviani et Marcel Estria à 20 ans et Joseph Versini à 15 ans. Voilà pour la cellule Cargèse. Pour la cellule du Nord, les deux professeurs, Jean Castella et Vincent Andriuzzi, sont aussi condamnés à de lourdes peines. Ils font appel. Reste le dernier procès, le plus attendu. Le 12 novembre 2007 s'ouvre le procès d'Ivan Colonna à la cour d'assises de Paris. Pour l'ancien fugitif, la bataille judiciaire commence. Depuis son arrestation, il n'a pas bougé, il se déclare innocent. Il n'a jamais appartenu au commando. La défense de Colonna a ses chances, puisqu'un an plus tôt, le 22 février 2006, les deux professeurs de la cellule du Nord ont été acquittés en appel. Leurs avocats ont réussi à démontrer que certains procès-verbaux avaient été trafiqués. Encore une fois, l'enquête et ses errements se retournent contre les forces de l'ordre. La stratégie de défense de Colonna s'appuie sur plusieurs arguments. D'abord, Pierre Alessandri, l'un des membres du commando, a adressé aux juges d'instruction Laurence Levert et Gilbert Thiel, en charge de l'affaire, une lettre le 27 septembre 2004, un an après sa condamnation, dans laquelle il s'accuse d'être le tireur. Ensuite, les avocats de Colonna s'appuient sur l'absence de preuves matérielles. En effet, aucun élément ne prouve la présence de Colonna le soir de l'assassinat, et encore moins qu'il était le tireur. Tout repose donc sur les aveux circonstanciés des autres membres du groupe qui depuis se sont rétractés et sur les deux seuls témoins oculaires de l'assassinat. Pour France Inter, Christian Binner raconte leur audience au tribunal le 21 novembre 2007.
Ce sont les deux témoins, les deux seuls qui ont vu le tireur. Elles passaient à ce moment-là en voiture, elles étaient à 2 mètres du trottoir scène du crime, la mère et la fille, la mère conduisait, détonation, elle voit deux hommes. Le plus près est grand, mais dit-elle, je n'ai pas vu son visage, plutôt une silhouette, une ombre, mais il était grand. Et je regarde Monsieur Colonna, c'est clair et net, ce n'était pas lui. La fille voit aussi deux hommes, un brun, un blond, et le blond est en train de tirer vers le sol, qu'elle ne voit pas. Une voiture en stationnement lui cache la victime. Blond, de taille moyenne, 30-35 ans, dit-elle, nos regards se sont croisés. À l'époque, j'aurais sans doute pu le reconnaître, mais aujourd'hui, elle se tourne vers le box. Je suis formel, ce n'est pas Monsieur Colonna que j'ai vu le soir des faits. Ah !
Ce procès est aussi l'occasion de revenir sur le parcours de Colonna. Fils d'un député socialiste, il a adhéré tôt au mouvement nationaliste. Après des études pour devenir professeur de sport en métropole, il abandonne tout pour revenir sur l'île, devenir berger à Cargèse et défendre la cause indépendantiste. Une trajectoire singulière qui explique aussi l'un des tournants du procès. La ligne défendue par les autres membres du commando, celle d'un geste politique, symbolique et collectif, ne résiste pas à la fuite de Colonna et à sa stratégie de défense. Alain Ferrandi, le chef du groupe anonyme, condamné à perpétuité, est appelé à la barre. Ivan Colonna lui demande de proclamer haut et fort son innocence. Alain Ferrandi ne regarde pas Ivan Colonna, mais il répond « Je te connais, Ivan. Tu es un homme d'honneur. Si tu avais participé, tu le dirais. Par conséquent, tu n'y étais pas. » Dans la salle, le silence est lourd. Tout le monde comprend le double sens de la phrase. Le 13 décembre 2007, Ivan Colonna est condamné à perpétuité et fait appel. Le procès en appel, qui s'ouvre en février 2009, est émaillé de nombreux conflits entre la défense et le président de séance. Certaines informations ne sont pas transmises à temps aux avocats, ce qui provoque la colère des défenseurs d'Ivan Colonna. Pour marquer son opposition, l'accusé décide de quitter le procès. Les magistrats condamnent une chaise vide à la perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. C'est alors que la femme de Claude Erignac sort de son silence.
Je suis choquée par le manque de courage d'Ivan Colonna. Je n'ai jamais été préparée à tout ce qui m'arrive. J'ai perdu mon mari dans des conditions terribles il y a 11 ans. Durant tout ce temps, j'ai attendu que la justice passe et je me trouve confrontée une nouvelle fois à la fuite d'Ivan Colonna. Vous pouvez comprendre ma souffrance face à cette attitude d'évitement.
Finalement, un troisième procès est organisé au début de l'année 2011. Cette fois, Ivan Colonna change son système de défense. Il reconnaît avoir fait partie du groupe des anonymes, mais n'a pas participé à cette action. Le rebondissement de ce procès survient le jour où une lettre d'Ivan Colonna, envoyée depuis sa prison à Pierre Alessandri, datée de décembre 2010, est présentée. Elle est écrite en Corse. Elle fustige violemment les autres membres du commando. Le 20 juin 2011, Colonna est de nouveau condamné à la perpétuité sans peine de sûreté. Depuis, il clame toujours son innocence. Il aura fallu 13 ans pour que le dossier Erignac se referme. Il laisse derrière lui de nombreuses zones d'ombre dans le déroulé de l'enquête, dans les conflits larvés entre les différents services de police, dans les incroyables rebondissements qui ont émaillé son avancée et dans les atermoiements et contradictions des principaux accusés. Cette affaire met en lumière la singularité d'un conflit qui dure depuis bientôt 40 ans entre l'État français et une partie de son territoire. Face à cette situation, la République doit, en Corse sans doute plus qu'ailleurs, s'en tenir à la maxime de Blaise Pascal, qu'avait noté Claude Erignac dans l'un de ses carnets, « La justice sans force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. »
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'assassinat du préfet Erignac, dont nous allons parler en Corse avec notre invité Paul Ortoli. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à France Bleu RCFM, donc correspondant en Corse du quotidien Le Monde, et après avoir assumé pendant 3 ans une émission de rédacteur en chef au sein du quotidien Corse Matin, vous êtes aussi l'auteur et réalisateur d'un documentaire en 52 minutes sur une dynastie politique héréditaire intitulée « Rocasser, l'héritage du pouvoir », bientôt diffusé sur France 3. Voilà, nous allons aborder, donc vous connaissez bien l'affaire, vous connaissez bien la Corse, nous allons aborder avec vous cette situation de violence et de manifestation sur votre île depuis l'annonce du décès d'Ivan Colonna, à tel point d'ailleurs qu'on en oublie parfois qu'il était jugé pour le meurtre de Claude Erignac. Alors vu du continent, Ivan Colonna était avant tout un militant radical, condamné à la réclusion à perpétuité pour avoir assassiné un préfet. Vu de Corse maintenant, que représente-t-il, notamment pour les jeunes qui finalement ne l'ont pas connu? Est-ce qu'il y a un imaginaire puissant autour de Colonna?
Oui, autour de la figure d'Ivan Colonna, il y a la construction d'un mythe, d'un martyr politique, par des jeunes, vous l'avez dit, qui finalement sont nés après l'assassinat du préfet Erignac, après 98, et qui n'ont pas connu ce traumatisme qui avait agité à l'époque la Corse, et le reste bien sûr de la population française. Donc il y a effectivement ce mouvement qui est très puissant, qui est né dès le 2 mars, dès l'agression mortelle d'Ivan Colonna dans sa prison d'Arles, et qui a petit à petit cristallisé le ressentiment et les aspirations politiques de cette jeunesse nationaliste.
En même temps, pour les Corses, En même temps, pour les Corses, Colonna a été victime en prison d'un manque de surveillance, d'une promiscuité qui était potentiellement dangereuse pour lui. Est-ce que c'est le message qu'envoient les Corses en ce moment dans la rue? Est-ce que c'est le principal message? Est-ce que c'est le seul?
Alors, il y a plusieurs messages, effectivement, mais le premier message qui était véhiculé par cette jeunesse, c'était de demander la vérité et la justice pour Ivan Colonna. La vérité, c'est-à-dire de savoir ce qui s'est réellement passé dans cette salle de sport le 2 mars. Aujourd'hui, il y a 3 enquêtes qui sont en cours. Une enquête administrative, une enquête parlementaire et bien sûr l'enquête judiciaire. Et l'enquête parlementaire, eh bien, on se rend compte qu'il y a pas mal de zones d'ombre, notamment sur la personnalité de l'homme qui a reconnu avoir agressé mortellement Ivan Colonna, Franck Elongabé, un djihadiste. Le quotidien Le Monde a révélé notamment que l'administration pénitentiaire avait eu connaissance de 29 faits le concernant, dont une prise d'otage, dont des agressions. Comment cet homme pouvait-il se trouver là, exercer des fonctions d'auxiliaire dans la salle de sport et se balader librement et rester seul avec Ivan Colonna dans une pièce? Ça, ce sont des questions qui ont agité l'opinion corse qui parfois y a vu une sorte de, peut-être, de complot, en tout cas, il y avait matière à discussion.
Complot, genre l'homme qui en savait trop.
Donc, genre, effectivement, il y a eu au départ des discours politiques, je pense à celui de Gilles Simeone, qui laissait planer le doute d'un acte de barbouzerie. Alors, il ne l'a pas dit nommément, mais il y avait cette insinuation en comparant des affaires précédentes où, sans faire un parler un peu forcé, mais avec l'affaire des paillotes, où on voyait que le préfet Bernard Bonnet, qui était insoupçonnable, s'était révélé commettre une action en dehors du cadre de la légalité. Donc là, effectivement, quand le président de l'exécutif demandait la clarification autour de cette cette affaire. Il insinuait aussi que Franck Elongabé ait pu être déclenché par des forces obscures de l'État qui auraient pu s'agiter. En tout cas, rien n'était clair. Et ces remarques du début, qui ensuite ont été bien sûr amoindries, qui ont été adoucies par la suite, montraient un petit peu le climat de torpeur qui régnait en Corse.
Alors, plus précisément, est-ce que l'idée selon laquelle Ivan Colonna aurait pu parler, se confier, c'est pour ça que j'ai dit l'homme qui en savait trop, est-ce que cette idée qui aurait débouché sur son assassinat est une idée qui fait son chemin, ou est-ce qu'on est là dans la théorie du complot? Que dit-on encore sur ce point-là?
Il y a beaucoup de confusion aujourd'hui encore autour de ce sujet. Et justement, la parole de la justice est très importante pour clarifier. Bien entendu, le temps judiciaire est très long et va demander des clarifications. Donc ce sont les parlementaires qui, au départ, se sont emparés du sujet au sein de la commission d'enquête et qui ont essayé de comprendre les défaillances au sein de la maison centrale d'Arles et d'essayer d'en comprendre les implications. Est-ce que Ivan Colonna était effectivement une cible? Bon, ça c'est une question qui reste en suspens. Mais aujourd'hui, ce qui semble quand même être un peu clair, si on écoute en tout cas les propos du directeur de la centrale d'Arles, c'est que peut-être que Franck Elongabé, son agresseur, voulait se payer, et je le cite en employant ce mot, quelqu'un de célèbre, quelqu'un de connu. Donc il y a peut-être quelque chose malheureusement qui est de la malheureuse concomitance.
Alors, ces prisonniers corses qui demandent pour la plupart à être internés dans une prison corse, hein, ceux qui sont emprisonnés sur le continent, bah, pour pouvoir voir leur famille plus souvent, c'est une demande qui pourrait paraître logique. Pourquoi, dans le cas de Colonna, cette mesure n'a pas pu être exécutée?
Alors c'est une demande qui est non seulement logique, mais légitime et légale, puisqu'elle est encadrée par une circulaire européenne et par le droit français, c'est le rapprochement familial. Un Breton qui braque une banque à Nice peut être détenu à Brest ou Nantes, c'est tout à fait normal. Dans le cas des détenus corses, et en particulier des détenus du commando Erignac, cela n'a pas été possible, et l'argument qui a été servi depuis 20 ans par tous les gouvernements, était que la prison de Borg, ou à côté de Bastia, surnommée dans le jargon le Club Med, ne réunissait pas les conditions suffisantes pour les accueillir. Et cet argument a été souvent vécu comme une injustice par ces détenus qui donc ne pouvaient pas rentrer chez eux. Donc cette double injustice a été portée par des associations de soutien des prisonniers qui sont appelés par les nationalistes politiques, et ça tout à fait brouiller le jeu. Et j'ajoute que dernièrement, c'était le statut de détenu particulièrement signalé qui concernait les trois prisonniers du commando Erignac, à l'époque, hein, donc quand Ivan Colonna était encore vivant, Monsieur Alain Ferrand et Monsieur Pierre Alessandri, ne pouvaient pas donc rentrer dans l'île. Ce statut dépendait directement du Premier ministre, puisque le garde des Sceaux, étant l'avocat, l'ancien avocat du commando, n'avait pu se prononcer et s'était déporté pour éviter un conflit d'intérêts. Donc finalement, la question de leur rapprochement était devenue éminemment politique, et ces détenus sont devenus, par la force des choses, politiques ou à tout le moins politisés.
À ce propos, de la prison de Borgo, qu'on avait qualifiée de passoire il y a quelques années, qu'en est-il réellement? Entre le fantasme prison, et la réalité.
C'est une prison effectivement qui a connu pas mal d'évasions, qui a défrayé la chronique, mais c'est une prison qui avait la particularité de garder les portes de ses cellules ouvertes. Aujourd'hui, il y a des travaux qui ont été lancés après l'agression par un détenu de deux surveillants, et il y a à peu près 400 caméras qui vont équiper l'ensemble du centre de détention. Donc celui-ci est prêt à recevoir Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, les deux dernier prisonnier du commando Erignac, ces prochains jours, au mois d'avril. Et aujourd'hui, c'est une prison qui est tout à fait en mesure de les accueillir. Et encore une fois, le risque d'évasion qui était soulevé un temps par l'administration pénitentiaire ou la justice semble peu probable.
Paul Ortoli, on se retrouve dans 3 minutes. Ne quittez pas surtout, après avoir écouté Pete Doherty, épidémiologiste.
The best laid plans can oft go to fuckery. Run down B&Bs can turn to luxury. A wish that is wasted still can be granted. Hope that is doped still can be planted. I search and I search
I lurch headlong into atrocities with an exponential no, no need to epidemiology. Little pink Enzo, little blue Benzos, hip hop, bebop, all blues and punk rock. Heads that are shrunken still can be clever. Ships that are sunken still can hold treasure. I search and search and lurch headlong into atrocities. The velocity no need to very few rational. Headlong into such atrocities with an exponential no, no need to epidemiology. Dashi Alhamen, Emile Lejar, Peter Laurie and Humphrey Bogart.
Paul Ortoli, vous êtes en Corse, toujours en Corse, pour parler justement avec nous de la situation sur l'île. Revenons au début de cette histoire, à l'assassinat du préfet Erignac. Lors de la première diffusion de ce récit, notre invité d'alors, Jean-Michel Verne, avait dit « Le terrible assassinat de Claude Erignac a prouvé que la Corse changeait d'air, que tout devenait possible, surtout le pire. » Est-ce que cet assassinat est le point ultime de la violence en Corse depuis, disons, le début du combat nationaliste à Léria, en 1975?
Le combat nationaliste, vous l'avez dit, a débuté véritablement en 75 à Léria et a été émaillé d'à peu près 10 000 attentats à l'explosif, mais également de pas mal d'assassinats et d'une guerre fratricide dans les années 90. Effectivement, le 6 février 98 marque un point de bascule important puisque c'est le plus haut représentant de l'État qui est visé. Et on voit que tous ces marqueurs, 75, 98... et aujourd'hui, l'assassinat d'Ivan Colonne 2022, tous les 20 ans, marque des moments importants dans l'histoire de la Corse. Et on ne sait pas ce qui va se passer par la suite, c'est-à-dire ce qu'il va advenir aujourd'hui dans la société corse aujourd'hui.
Et comment analysez-vous le point de bascule? On a compris le point de bascule, l'assassinat du préfet. Pourquoi on est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé pour passer cette frontière-là jusqu'à tuer un préfet? Non.
Si on revient à la revendication du commando trois jours après l'assassinat du préfet, finalement, il revendique un acte parfaitement réfléchi et hautement politique. D'une part, intervenant pour se mettre à l'écart du mouvement nationaliste qu'il estime dévoyé, avec des discussions avec l'État, avec une dérive mafieuse, ce sont en tout cas ce que dit le commando. Et donc, ils veulent provoquer, en tapant au cœur de l'État, un sursaut dans la population et une vague de répression, finalement, elle est intervenue, puisque, à la suite de l'assassinat du préfet Erignac, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, qui avait décrété qu'il s'agissait d'une cause sacrée, avait nommé le préfet tristement célèbre Bernard Bonnet pour rétablir l'état de droit en Corse. Et finalement, la logique du pire du commando ne s'est pas réalisée, puisque, à la suite de l'assassinat du préfet, 40 000 Corses défiler dans la rue pour protester contre cet homicide, mais d'autre part, le mouvement nationaliste s'est ensuite reconfiguré pour protester contre cette vague répression aveugle qui avait agité la Corse. Donc, finalement, il y a toujours eu cette double hésitation dans l'île depuis, entre la condamnation de l'assassinat du préfet par l'ensemble de la classe politique, de la société civile, mais d'autre part, avec cette politique de répression trop importante. Je rappelle que il y avait eu à peu près 350 gardes à vue, 48 mises en examen, 19 mises sous écrou lors de l'enquête sur l'assassinat du préfet Erignac.
Alors, ce qui a ajouté à la confusion, bien sûr, c'est la cavale de Colonna. On va écouter ensemble une archive. Il s'agit de l'un de ses avocats qui s'exprime, en l'occurrence Éric Dupont-Moretti, lors du procès en 2011.
J'apprends que les membres du commando et que leurs femmes ont été interpellées le 21 et je ne me sauve pas. Je passe à la banque, je suis vu par des tas de gens, ma téléphonie démontre que je ne me suis pas sauvé. Alors vous comprenez, la difficulté, c'est toujours pareil. C'est la façon dont on appréhende la présomption d'innocence. Si l'on veut regarder obstinément Ivan Colonna comme un coupable, je vous garantis qu'on va trouver. Si on veut, ne fût-ce que 5 minutes en un mois, se dire que cet homme est peut-être innocent, voire innocent, alors il y a un certain nombre de choses qui s'expliquent. La présomption d'innocence, au sens vrai du terme, c'est ce que je suggère ici. Que 5 minutes, on essaie enfin d'entendre cet homme.
Alors effectivement, la position de Colonna a toujours été la même, il a toujours crié son innocence, sa défense a longtemps insisté sur l'absence de preuves matérielles, c'est vrai que c'est un argument fort pour les Corses, et il tient encore, j'imagine.
Alors effectivement, l'innocence d'Ivan Colonna est quelque chose qui a marqué durablement l'opinion corse, mais je rappelle quand même que le deuxième procès en 2009 avait été annulé, ce qui avait également montré qu'il y avait des éléments à décharge en ce qui concerne Ivan Colonna, ce d'autant que les membres du commando avaient eux revendiqué, ou du moins la plupart revendiqué cet acte politique, mais qu'Ivan Colonna n'a pas du tout été dans la même ligne de défense que lors de sa cavale, l'un des membres du commando, Pierre Alessandri, s'était accusé d'avoir été le tireur. Donc il y a toujours un doute raisonnable qui existe, et certains en Corse seraient même prêts à demander la révision du procès, quelque part.
Après l'assassinat de Colonna dans sa prison d'Arles, enfin il est mort trois semaines après, hein, le ministre Darmanin est venu en Corse, ministre de l'Intérieur, pour parler autonomie. Une délégation d'ailleurs, une Corse, devait venir à Paris vendredi pour avancer sur ce thème. Or depuis la dernière manifestation à Ajaccio dimanche, la réunion a été reportée encore une fois. Est-ce que les nationalistes veulent vraiment négocier ?
Oui, vous l'avez dit, la réunion qui devait se tenir le 8 avril place Beauvau a été ajournée en raison des violences. Le ministre de l'Intérieur était venu en Corse du 16 au 18 mars pour effectivement ouvrir les conditions d'un dialogue en posant un préalable, l'arrêt des violences, des émeutes. Et effectivement, depuis, les élus nationalistes ont tenu un double discours. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont appelé de leur vœu ces négociations. Certains ont placé la barre des négociations très haut, en demandant d'ores et déjà reconnaissance du peuple corse, de la langue, enfin bref, mettant un petit peu la charrue avant les bœufs. Mais d'autre part, ces mêmes nationalistes étaient présents dans les cortèges, où ont défilé sous une banderole « Stat ou Française assassine, État français assassin », où des propos anti-français, anti-gouvernement étaient tenus, et les photos de Gilles Simeone, le président de l'exécutif, portant le cercueil d'Ivan Colonna dès son arrivée à Ajaccio, ont choqué et font poser la question aux plus représentants de l'État de savoir s'il est le bon interlocuteur pour avancer dans cette négociation.
Alors ça passe aussi par la sémantique, hein, la compréhension des choses, et beaucoup de certains continentaux ont du mal à faire la différence entre les idées nationalistes, autonomistes, indépendantistes. Que veulent-ils au bout du compte ?
Les autonomistes veulent le pouvoir législatif. Une professeure de droit, Vanda Mastor, a d'ailleurs en ce sens rédigé un rapport sur l'autonomie qui sert un petit peu de feuille de route à l'exécutif. Donc, en clair, une plus grande autonomie comme la Sardaigne ou la Sicile, pouvoir décider d'avoir des compétences élargies, adapter même les lois de la République au territoire insulaire, tout en étant rattaché, c'est-à-dire que l'État conserve ses prérogatives régaliennes. Les indépendantistes, eux, veulent considérer que la Corse est une nation et qu'elle doit s'autodéterminer et donc ne plus avoir de lien avec la France.
Mais
ça, c'est la ligne de fracture qui a toujours existé depuis les débuts du nationalisme.
Mais quel est le camp le plus fort entre les deux ?
Alors le camp le plus fort, c'est celui des autonomistes, puisque Gilles Simeone ne demande pas l'indépendance, il demande l'autonomie. Au mois de juin, il a été réélu pour la deuxième fois, avec une majorité absolue, et en écartant de la majorité la coalition des indépendantistes, d'une part, et de son allié autonomiste, Jean-Christophe Angelini. Donc ils ne font plus partie de la majorité territoriale. Donc indéniablement, Gilles Simeone est le patron de la Corse, et sur son nom, je dirais, se sont ajoutés des votes qui ne partagent pas forcément le point de vue autonomiste. C'est-à-dire que c'est un modéré. C'est pas un radical.
Bien, merci infiniment en tout cas Paul Ortoli pour les éclairages que vous nous avez apportés sur la Corse et de Corse. Au revoir. Merci.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'assassinat du préfet Erignac. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Jérémy Kaufmann.